on m'a l'opération de patoite avait ciblé des réseaux criminels. Nous allons commencer avec des choses, disons, comme Akbut, que nous devons voir au Noël. Et puis, qui est des témoins chers, je pense. Ils sont vraiment de bons sites web. Et la plupart des acheteurs ont été, on avait menti. Ils ont reçu rien. Où ils reçoivent des produits de contrefaçon. Et malgré de ces opérations longues, les opérateurs avaient fait des investigations compréhensives qui avaient compris les vérifications. Ce n'était pas seulement les sites, de vrais sites. Les victimes qui pensaient que c'était vraiment ont toujours risqué voler les criminels, voler les cartes de crédit, les détails de banque, la mauvaise utilisation posée ailleurs. C'est vrai. On avait beaucoup de livres, surtout toujours recyclés, pour financer d'autres activités criminelles, illégales. Ces opérations étaient pour le système de. Et l'idée était faire le travail plus difficile pour ces criminels. Il faut protéger les citoyens britanniques quand ils font des commerces en ligne. À cause d'investigations, nous avons vu des instructions de la police de prendre 1219 des noms de domaine de la Grande-Bretagne. Quand on a vu des instructions, nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre registreur et la majorité était capable de prendre quelques actions rapides pour répondre. Et la registrar, ils ont rapidement réagi avec responsabilité de manière responsable. Les conséquences vraiment seraient vraiment énormes. Et l'intelligence que la police avait montré que la plupart de ces sites étaient enregistrés dans l'Asie, malgré le fait qu'ils avaient le domaine nom de la Royaume-Uni. Ils ont été enregistrés en utilisant les détails qui étaient faux. Ça, c'était une violation de notre terme de viol enregistrement. Et plus important, on avait fait cela impossible pour les victimes de la Grande-Bretagne de se plaindre sur ou de non-voix de ces. Bon, cela a rendu la tâche très difficile. Aussi, l'agent de la mise en œuvre de prendre les actions. Tout ce qu'ils devront faire, c'est aller arrêter vos locaux commerciaux. J'étais vraiment surpris. Il y avait beaucoup d'intérêt sur ces opérations. Peut-être c'était les noms qui avaient fait l'histoire. C'était parce que la plupart des gens, on n'a pas pu acheter leur cadeau de Noël sur ligne. Je dois dire que la plupart du travail était vraiment intéressant. Quand l'équipe de Sky est venue sur notre bâtiment, et moi j'étais vraiment pas content, ça veut dire que j'avais dû faire beaucoup de choses. Mais nous allons trouver que la publicité, nous avons permis de parler de nos engagements, de faire l'Internet à l'endroit sûr pour tous les utilisateurs et pour travailler pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes. Je pense qu'il est important que les registres qui ont les mêmes engagements et les mêmes buts seront capables de démontrer cela avec la même réponse. Merci.
Merci beaucoup, Leslie. Notre prochaine intervenante, c'est Sandra, qui va nous parler des efforts FTS et pour le 3FN, 3FR, et surtout avec la diffusion des matières électroniques. Alors, Sandra, c'est à vous la parole. Merci.
Tell them.
Je ne peux pas bien entendre. On n'entend pas clairement.
Utilise le microphone.
Je n'entends pas clairement, s'il vous plaît. Je ne peux pas entendre clairement. Malheureusement, on ne peut pas bien entendre ce qui se passe. Je ne peux pas bien entendre ce qui est là.
Il y a un problème.
Il y a un problème. Et peut-être... On n'entend pas. On peut continuer. On a eu un réseautage dû de succès de cas qui impliquait la violation copa. Le spank, il y avait beaucoup d'enforcement de l'acte CANSPAM où les coopérations internationales avaient joué, étaient une grande composante. Aujourd'hui, bien sûr, pourtant, j'aimerais dire, parler d'un cas particulier qui illustre le travail de FTC dans ce domaine. C'est un cas récent de juin 2009. Et c'était un cas particulier de un fournisseur de services de l'Internet. Et nous croyons que les opérateurs de cette organisation vivaient en étranger. Le cas particulier, pour beaucoup des raisons, mais surtout parce que pour la première fois, le FTC a utilisé l'autorité de ISP. Et celui qui a porté le plein a aussi parlé et contre le PrisWatt et aussi, je ne vois pas clairement, et il y avait, cela avait un grand de contenu illégal, y compris la pornographie des enfants, les pharmacies sur ligne, et le commande botnet et le serveur contrôle. Il y avait aussi le logiciel de musique, les outils de spam, etc. Mais, et on a tout cela. De plus, il y a un exemple de collaboration avec le gouvernement, l'académie et le secteur privé. Et aujourd'hui, j'aimerais dire... Et parler d'un résumé des types de preuves qu'on peut avoir de différentes forces. L'université Alabama, il y avait le centre national pour les enfants qui sont perdus ou exploités. Et elle parle très très vite. Et cette collaboration était vraiment utile et c'est la collaboration parmi les parties prenantes. Et ça, c'est un bon exemple de collaboration et pour avoir des bons résultats. Alors, nous commençons maintenant à découvrir cette stratégie. Et un agent spécial de NASA avait des preuves concernant ce cas particulier. Mais on a identifié la location des centres de données et là où se trouvaient ces serveurs. Et cela était important. Et on a obtenu aussi les logs 3FN et SECO qui étaient les transcripts en stade des messages de conversation entre les parties et à travers les MC et les serveurs MCCOLO. Et comme j'ai déjà dit, c'était les preuves. Comme vous voyez prochainement, c'était vraiment important ce cas-là. Et nous avions les excerpts et ces messages. Et étaient les liens de bavardoire, des participants de bavardoire à 3FN. Au moins deux entre sont avaient les identifications uniques. Et un agent de 3FN a parlé avec le consommateur et on a utilisé le botnet pour commettre le fraude et on a fait une enquête sur cela et on a assuré et le manager a assuré le consommateur qu'ils sont capables de le gérer. Ces bots actifs pour générer 500 000 par jour. Ok, je ne vois pas, je n'entends pas clairement, mais en tout cas, on continue. On a eu les réseaux des bots à 3FN. Le département de programmation accepte de travailler avec le consommateur, mais se plaigne concernant la taille de botnet qui a besoin de beaucoup d'efforts. Et comme vous voyez, c'est une preuve directe. Je n'entends pas clairement. Ok, on continue. Même il y avait aussi l'autre qui venait d'un directeur de recherche pour les forensiques de l'ordinateur de l'université Alabama. Et le directeur a analysé le contenu de domaine de 3FN et on a pu confirmer qu'il y avait le contenu malicieux y compris. Comme j'ai déjà mentionné, il y a la pornographie des enfants, la génération de logiciels spam, la musique aussi piratée, le logiciel et aussi les pharmacies sur ligne. Et de plus, on a pu aussi confirmer que le 3FN publiait ce qu'on appelle le 3 le crewtop.nu, qui était un forum de discussion en langue de russe. Le directeur de recherche a étudié le code de malicieux et il y avait les codes et les individus qui contrôlent le botnet. Ça, c'est la façon dont on a déterminé qu'il y avait les milliards d'ordinateurs infectés dans le botnet. Une autre source était le Centre national pour les enfants perdus ou exploités. Le Centre national Montia, le SIRP, la ligne SIPTIP, et à travers cette ligne, ils ont pu permettre aux membres du public et des agents de police de rapporter les cas des enfants et aussi la pornographie sur ligne. On a analysé les rapports, on a reçu les rapports et on a déterminé des données qu'il y avait 700 rapports de pornographie de l'enfant. Et ils ont pu aussi confirmer 500 de ces pornographies. Ces 500, c'était le résultat de pornographie des enfants et on considère le contenu. Et l'autre source qui est très importante pour l'investigation était le Spam House. Et comme vous le savez, c'est une coopération active qui crée les listes bloquées et fait leur recherche. Et s'ils découvrent les adresses IP qui sont associées aux activités malicieuses, ils contactent le ISP qui, à son tour, prendra l'action. Alors, le Spam House a suivi sa pratique en respectant le 3FN. Après avoir déterminé les adresses IP, on a aussi collecté l'information concernant l'activité, mais aussi 17 différents adresses contrôlées par 3FN sont liées aux commandes botnet. Et on a contacté les représentants de 3FN, selon le Spam House, et on n'a pas pu, on a changé les sites de leur adresse, des autres adresses IP qui appartiennent aux 3FN. Et alors, comme représentation, un représentant a pu déclarer notre cas, etc. Et un grand nombre de ces raisons est comme résultat comparé 3FN et Mac Colo, qui étaient les sortes de ICP qui on les a fermés. Et surtout, il y a le serveur qui mobilise les ressources, l'information sur le logiciel malicieux et l'activité botnet, etc. Et après avoir réévalué tout cela, la fondation en conclut que 311 3FN abordent, ont participé et donc ces activités malicieuses. Comme vous voyez, on a conclu que les serveurs pour le contrôle et la commande des fonctions. Et surtout, il y a l'autre de voler les mots de passe, voler aussi les données et les programmes qui impliquent aussi la distribution de spam. Alors, on a plusieurs types d'activités malicieuses. Symantec a aussi réévalué un nombre de 3 FNIP et donne leur banque de données. Et pour l'intrusion ou les attaques des cyber qui viennent des adresses, de ces adresses IP et qui appartient à 3FN. Et ils ont aussi confirmé que ces adresses sont connectées aux attaques botnet, ces bot commandes et activités contrôle, les attaques spam. Et on a collecté plusieurs informations. L'investisseur était aussi capable de connecter plusieurs adresses et qui ont été enregistrées sous Pricewater. L'investigateur a aussi suivi plusieurs preuves qui confirment que les opérateurs étaient étrangers avec la traduction des catalogues et aussi avec les plaintes sur ligne. Il a aussi visité les sites de 3FN et on a eu 3 infections de l'ordinateur, de 8 ordinateurs. L'impact, concernant l'impact de l'évaluation, on a quel était l'impact de fermer le 3FN? C'était difficile de mesurer précisément, mais on a eu les niveaux de spam qui la chute des niveaux. On estime que nous avons 30%, mais malheureusement, c'est une situation temporaire. Et on a eu aussi l'impact sur ce qu'on appelle cult whale botnet. Malheureusement, ou bien les mauvaises nouvelles, c'est que l'évaluation de l'impact, c'est que les criminels réagissent à tout cela. On décentralise leurs opérations et continue en termes anonymes dans l'Internet et ils sont en train de redévelopper leurs opérations. Et les agents de police doivent réagir. Et alors, on a besoin des autres solutions et je pense qu'on peut prendre, prendre des questions pendant la discussion.
Good afternoon, merci, bon après-midi, c'est un plaisir de parler avec vous cet après-midi. Thank you.
securing law. That information is on a website. That information is shared.
Et l'information est partagée par le monde entier et on utilise l'Internet pour parler de l'importance d'être engagé et le volontariat. Et là, cette information est utilisée sur le site web. Peut-être quelques-uns de vous ne sont pas au courant. On utilise aussi le média social pour renforcer les communautés qui sont affectées par désastres, qui sont impactés par le travail que nous faisons, et nous sommes heureux que nous avons l'habilité et la possibilité d'utiliser ce que nous avons pour aider ces gens qui sont sinistrés. Pour Red Cross America, l'Internet est un très bon outil pour partager ce message avec les communautés avec lesquelles on travaille. Diapo suivante. Dans la zone des désastres, les réseaux Internet aident les gens de se rencontrer avec les gens qui sont portés disparus. Alors, c'est un outil très important. Et lorsqu'il y a un abus de DNS, diapo suivante. Et finalement, je pense que dans une manière très importante, on va exécuter ce programme en utilisant l'Internet comme opportunité, mais c'est une obligation qu'on prend très sérieusement et qui est très vitale pour notre travail comme Red Cross America, pour tous les membres de la Croix-Rouge et Red Crescent. Et on a salué la générosité qui donne aux organisations qui vont aider les gens sinistrés. Mais malheureusement, il y a d'autres gens là à l'extérieur qui vont utiliser l'Internet pour faire du mal aux gens. Diapo suivante. Alors, parce que le monde est un lieu imparfait, on doit avoir un programme pour protéger les communautés conservées. Pour la Croix-Rouge américaine, on utilise l'Internet et pour nous, les organisations non lucratives, on utilise ces ressources pour faire face à cet abus de DNS. Ce que je viens de mentionner, c'est que la Croix-Rouge américaine a l'opportunité de réduire cet abus de nom de domaine. Mais ce que j'aimerais avoir, c'est que la communauté et les organisations qui viennent de pays émergents, qui sont petits, qui n'ont pas l'Internet, qui n'ont pas le bénéfice de statut de se protéger contre l'abus, et les organisations qui sont petites, qui se battent à redresser leur processus d'aide à travers le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais avoir l'intention des CAN de travailler avec la Croix-Rouge américaine pour avoir une convention, pour avoir des ressources qui vont découler et vont être utilisées parmi la communauté. Je dois jouer le rôle de police et je n'ai pas les ressources pour le faire. J'aimerais vraiment remercier mon équipe à la Croix-Rouge américaine parce qu'ils sont en train de regarder ça. Et lorsque je parle de mon équipe, c'est moi. Et mon ami Blake, c'est pas ce que nous faisons. Je n'utilise pas tout le temps que j'ai pour renforcer l'utilisation de l'Internet. Il y a d'autres travaux importants qu'on est en train de faire. Et on va faire deux choses en même temps. Mais, diapo suivante. Qu'est-ce que nous avons? On fait le contrôle de l'Internet et les sites web. Et on voit des lettres. Je peux vous dire quelque chose. Les réponses qu'on reçoit comme le Croix-Rouge américain, c'est pas que ça me vise directement, mais c'est du travail qui doit être proactif. Et la plupart de cette contribution vient des volontaires qui cherchent à aider des victimes qui étaient dupées par ces malfaiteurs sur l'Internet. On parle de quel abus ? C'est ce que vous pouvez voir dans le domaine de business. Vous pouvez voir des gens qui ont enregistré des domaines qui ont quelques fautes d'orthographe comme au but de l'Internet. Mais il faut connaître qu'on n'a pas toutes les ressources possibles pour faire face à ce problème. Et il y a des sites web, des organisations pour... de sorte de duper des gens qui utilisent l'Internet pour croire que le site web est réel et formel alors qu'il n'est pas. Et c'est un autre abus qu'on doit faire face comme la société de la Croix-Rouge américaine. Lorsque vous parlez d'exemples spécifiques, lorsque vous parlez de l'abus ADNS, quels sont ces abus dont on parle? Alors, on pose la question, comme la personne qui vient de parler tout à l'heure, il a dit qu'il y a ce sorte de hackers qui existent sur l'Internet. J'aimerais que vous regardez cet abus de manière près. Je m'assois devant mon ordinateur, c'est 16 heures de l'après-midi, janvier, et je suis en train de voir comment l'équipe peut unir l'information. Et puis après, je commence à recevoir un email qui me dit sur le site Désastre en Haïti. Et on commence à se poser la question comment on va répondre à ce désastre de l'Haïti. Et puis après, tout de suite, il y a beaucoup d'autres emails qui arrivent et les enregistrements qui continuent sur l'Internet. Alors, mon équipe d'une demi-personne, parce que c'est moi et mon ami Beck, on doit mobiliser les ressources que nous avons à notre disposition au moment tout de suite là pour commencer à voir comment on peut répondre à ces questions. Alors, pour jouer la police, on va voir comment faire face et contrarier cet abus de ADNS. Le premier exemple, la personne qui a eu ce site web... qui a eu l'idée de faire des gens qui commencent la contribution vers la Croix-Rouge, entre guillemets, parce que ce n'était pas la Croix-Rouge américaine en vrai. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi le trafic d'informations dont on parle ici? Dans une semaine, avant l'impact d'Haïti, le désastre d'Haïti, on a visité le site web de la Croix-Rouge et j'ai reçu cette information. Il y avait 2 millions de contributions dans notre site web. Et cela, les visites sur notre site a eu une hausse très importante vers les 14,7 millions de visiteurs par semaine. Et puis, on a commencé à voir ce qu'on voulait accomplir pour aider la communauté haïtienne. Et on regardait notre site web pour voir ce qui se passait et comment on allait aider cette communauté. On a commencé à chercher de l'aide et comment on allait recevoir cette aide à travers notre site web. Et les bases...
Donc, connaître les efforts que nous devons faire et des activités à l'époque. Mais je voulais vous dire une idée, donc quelque chose que vous pouvez trouver intéressant. Donc, après deux semaines, après le désastre de ce semestre, j'avais le travail de... plus de 90 cas d'abus dans une période de 12 semaines. Il faut pas oublier que j'avais beaucoup de travail à faire pour coordonner les efforts pour Haïti. Et vraiment, ça a été stressant. Et c'est vrai. Et moi, c'est-à-dire, moi, je vis ça. On est engagé. Et je sais que je n'ai pas eu peut-être beaucoup de soutien. Mais quand on croit quelque chose, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, lorsqu'on fait cet accès, ça nous montre que, par exemple, lorsqu'on a eu le problème de Katrina, partout, on connaît exactement les mêmes problèmes. Donc, nous avons eu les problèmes de email, comme tout le monde aussi. Et puis, nous avons les défis. Comment est-ce que nous pouvons prioriser les défis? Ce que nous avons, étant donné les ressources que nous avons, c'est de trouver qui sont les enregistrants de ce domaine. Quand on trouve la personne chargée de l'enregistrement, si on utilise un service privé ou des proxys, on doit maintenant voir comment. Il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de l'abus des DNS, mais il faut parler des efforts où, par exemple, il y a des gens qui ont donné beaucoup de dollars pour aider les victimes. Donc, on parle de l'abus pour des gens qui ont donné leur argent. Et donc, ça, c'est le plus grand défi et c'est le message que nous voulons partager avec vous. Et je sais que les organisations comme vous font un travail, un mieux travail pour qu'on encourage les bonnes pratiques en ce qui concerne l'usage de l'Internet. Merci. Merci, Debra. Le dernier intervenant, c'est Richard Bronsvich, qui va nous parler des efforts de Microsoft pour protéger les systèmes d'Internet. Donc, on donne la parole à Richard. Merci. J'espère que vous m'entendez. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui. Ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez parler? Alors, j'ai l'ordinateur avec moi aussi, mais je vais voir comment je peux faire. Alors, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire cette intervention. Et nous, à Microsoft, nous essayons de travailler avec ICANN pour surmonter ces problèmes. Avant de continuer avec ma présentation, je peux vous donner une petite historique du groupe où je travaille au sein de Microsoft. Et le contexte spécifique, c'est que nous faisons partie du département juridique de la société. Néanmoins, nous ne faisons pas les affaires juridiques en tant que telles. Mais Microsoft a des organes qui ont été conçus pour combattre les virus. Donc, nous avons un lien de travail avec les chercheurs et les ingénieurs. Et nous travaillons quotidiennement sur ces problèmes. La plupart des personnes avec lesquelles nous travaillons, c'est pour le gouvernement et les organisations, et nous travaillons aussi avec ceux qui sont chargés de la gestion des systèmes aussi. Nous avons décidé de faire une action unique, et lors de nos analyses de comment aborder des différentes approches pour ces questions, nous avons eu une décision de travailler avec des candidats qui voulaient avoir une action légale. Et
we work closely with industry partners and academic partners on this. On the academic front, we've worked closely with the University of Washington. and also with the University of Mannheim, Bonn, and Vienna, as well as a Shadow Server Foundation, Symantec, and several other industry partners, which helped us tremendously, but requested that their participation be kept confidential. We ultimately settled on the Wallavik bot due to its unique structure, in the sense that it was both an HTTP and peer-to-peer-based bot. It had a four-tiered infrastructure with a fast flux component to it. And we thought this was interesting, since we would be able to test both of our theories, the first being how do you address the controller command server, which is domain name based, but at the same time utilizing technical countermeasures simultaneously to address a peer-to-peer architecture. Moreover, from the legal side, we had to find a bot whose damages were clearly identified and would be readily understood by a civil court, in that we wanted to make sure that there was, at least in the U.S., a specific violation which a court would feel comfortable with and quickly recognize, since we were going to ask for an extraordinary relief. In essence, we were going to ask that the court go ahead and issue a temporary restraining order directed not at the registrars, but rather at a registry, sever the domains associated with the Wallavik botnet. Now, it's extraordinary and very difficult to obtain such a TRO, as we call it in the States, and in most countries whose laws are based on common law, in that for it to be effective, it had to be ex parte. Ex parte meaning that the other side, that is, the registrants, the owners of the domains, would not be present and would not have an opportunity to be heard at the hearing. As a general matter, courts do not like to do that, since in essence you are taking someone's property, so to speak, away from them, temporarily at least, without giving them an initial opportunity to be heard. So the damages issue was important, since we had to prove clearly and unequivocally that Microsoft was being damaged, and that such damage was ongoing, irreparable, and it would continue to go on if the court did not issue that temporary restraining order, which would direct the registry to sever the connections to those domains. Wallavik fit the bill in the sense that it was easy to identify spam as a problem. We were able to document to the court in our pleadings that we had blocked in an 18-day period approximately 650 million IPs associated with Wallavik as it tried to send spam to our users on Hotmail. We were also able to identify and present to the court that an additional 24 million spam emails had actually made it through and reached our users, thereby conclusively showing that we, in fact, had suffered a harm. As a result, we were able to present copies or examples of the spam issued by Wallavik, showing trademark and copyright infringements not only against Microsoft, but a host of other companies, which were not necessarily party to the suit, but were clearly victims as well. Companies such as Pfizer, Rolex, and other well-known companies worldwide. And, of course, the victims themselves were also the computer users whose computers were infected with the virus. We were able to convince the court to give us a temporary restraining order, and the order was directed to the registry. In this case, it was VeriSign, since the Wallavik botnet was primarily, if not exclusively, in the .com domain. Next slide, please. The law gave us 14 days to be able to go ahead and now provide notice to the domain owners. And this was basically the major point and the reason why we had to proceed ex parte with a TRO, and why we argued to the court that this was the only procedure that would work in this case. We told the court and explained to the court that as opposed to standard trademark cases or copyright cases, in which you would go directly to the registrar and request a takedown, that the very nature of the bot itself and those behind the bot herders, would, if given any indication at all or any notice at all that we were trying to take down those domains, would move. And that movement would be virtually immediate, and thereby continuing the harm against Microsoft and putting us back into square one. That is why we had to develop the strategy that we did, and that is why we asked the court for the TRO. After we get the TRO, and that was in fact granted, and it was the first TRO specifically tailored, ex parte TRO specifically tailored to combat a bot, we had 14 days to provide notice to those individuals who own the domains. Again, courts are very hesitant to take people's property and rights away without giving that individual or entity the right to be heard, and it makes sense. Another hurdle that we had to overcome was to provide the court sufficient explanation as to how we were going to go out and advise or reach or provide notice to those domain owners, the registrants. Part of our strategy was to go ahead and utilize the system already in place in providing notice. We would go to the registries and ask for the registrant information, and we told the court that that's what we were going to do, that that was the process in place, and that we would reach out both by mail and email to the registrants in an effort to locate them and provide them notice. Moreover, in order to provide the court a higher comfort level, we also indicated that we would proceed via the Hague Convention with the understanding that this may take 4 to 5 months for the process to run through. Nonetheless, it was a process that was recognized and familiar for the court. Now, the court understood that our position was that a lot of the information, if not all of the information, that the registrants provided the registrar would more likely than not be fictitious or inaccurate. And at the conclusion of the 14 days, the court held a hearing. And at that hearing, we advised the court, with the exception of two domain name holders, both of which we were able to contact, both of which at that point were located in the United States and were not aware that their domains had been compromised, the remaining 275 of the 277 never responded. And the reasons are obvious. Next slide, please. And I'm just using the slides as a background as to the extent of the problem we were looking at. And this last slide, which is up now, indicates from the U.S. perspective the number of IPs that we were associated with WildEck during that time period, and also on a global basis. Once the hearing took place, the court went ahead and modified the temporary restraining order for a preliminary injunction. And legally what that means is during the pendency of our case, we will now have those domains severed, and the bot herders will not have the ability to utilize those domains for their CNC. Now, in addition to that, as I mentioned in the beginning, this was a unique bot in the sense that it was HTTP and peer-to-peer. Our technical countermeasures with our industry partners and academic partners were able to address the peer-to-peer components. in such a way that we have seen a drastic reduction in the bot's ability to communicate and therefore send out spam and potentially infect other consumers as well. From a legal perspective, the next step at this point, and all of this is available on a website which I provided to ICANN, where all of our legal pleadings are located. And incidentally, the pleadings are both in English and in Chinese, since the domains were primarily registered, with the exception of two or three, with Chinese registrars, would be to request discovery for purposes of better estimating the damage involved with the WallNet botnet. We anticipate that within the next several days, the federal court in the Eastern District of Virginia would provide us a new order in which we will be able to request that VeriSign now direct traffic information to Microsoft pursuant to the court order for a period of a week or two. And at that particular time, we'll be able to report to the court with much more specificity the exact number of infected computers, as well as be able to geolocate the computers as to where they are located and what type of harm we are seeing on those computers. That would allow us to go back and better articulate to the court our next steps as to what we're going to do with that information at the conclusion of our case.
Cela pourrait encore nous permettre de pouvoir articuler les informations en conclusion pour notre cas. Pour notre cas. Je ne peux pas conclure sans mentionner le soutien que nous avons eu des sortes de la Chine. Au moment où nous préparons notre documentation de notre cas, nos partenaires académiques ont identifié des domaines supplémentaires qui ont été ajoutés et pour lesquels nous n'avions pas le temps d'inclure directement dans nos documents. Avec la coopération de China Chat, nous avons pu donc aborder ces domaines. Et puis, nous avons aussi enlevé du contrôle, d'autres contrôles, le contrôle des opérations. Et c'est là donc que nous avons utilisé dans le domaine juridique que c'était un succès, mais du côté technique, comme le rapport de nos partenaires l'indique, il y a eu donc la réduction des infections ou de spam dans les ordinateurs. En ce qui concerne la révision interne de ces spams, nous avons vu qu'il y a eu une réduction de 50% de spam qui a dirigé à Hotmail. Nous croyons que les autres 50% qui peuvent n'avoir pas été envoyés par Waladec. Il pourrait bien et bien successible que ceci puisse avoir été envoyé par Waldeck. Mais c'est-à-dire, il y a toujours d'autres spams qui continuent, mais on essaye donc de pouvoir protéger. Mais en général, je pense que cette opération a démontré que quand on travaille ensemble dans des opérations communautaires, avec nos partenaires académiques, avec le secteur technique, et puis on cherche donc de nouvelles solutions juridiques pour la mise en application de ces solutions pour essayer de résoudre les problèmes que l'on trouve dans ce domaine. Si nous travaillons à Macroforce, avec Macroforce, nous essayons donc d'essayer de nous pencher sur ce problème, essayer d'apprendre davantage pourquoi est-ce qu'on abuse de ce système BNF et voudrait essayer de voir que la communauté puisse avoir des alternatives pour pouvoir minimiser ce problème à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Richard, et tous les panélistes. Maintenant, nous allons ouvrir le débat pour les questions-réponses.
Paul Hawkins, Serious Organized Crime Agency. I think I'm the only law enforcement officer in.
Donc, je pense qu'un officier de maintien de l'ordre, c'est dans la salle. Ce domaine est très important concernant ces crimes qui se fait donc contre l'ordinateur. Je pense que le présentateur, surtout Debbie, a montré un aspect humanitaire de ce qui a été dit et surtout le genre de victimes de ces crimes. Je voudrais, par exemple, dire peut-être un ou deux choses qui vont donner des conseils. Comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération entre l'industrie et les forces de maintien de l'ordre? Merci. Merci. Oui, peut-être que vous pouvez commencer. Je veux dire que la première chose à faire, c'est l'éduquer et fournir les voies et moyens pour avoir des informations donc à ces organisations. Ça, c'est pour donner une idée sur les activités qui se passent. C'est vrai que j'ai l'accès, mais il y a d'autres organisations qui sont victimes de ce genre d'abus, mais ne connaissent pas les raccourcis, ne connaissent pas les voies et moyens pour essayer de résoudre ce problème compliqué. Quand vous êtes attaqué par le spam, quand votre site web est attaqué, si votre nom apparaît dans le spam, vous ne savez pas comment vraiment le faire. Je pense que ça, c'est vraiment une idée vraiment très, très géniale. Parce qu'il y a de ces choses obligatoires que les conservateurs des registres et même l'enregistrant doivent faire. Parce que dans la communauté ancienne, on peut donc fournir l'assistance et l'orientation, donner des informations. Ça, c'est une chose très importante. Une autre chose importante dont on parle, c'est les politiques qui affectent les utilisateurs de l'Internet, et dont nous sommes aussi membres. Parce qu'il y a des utilisateurs d'Internet qui ne sont pas dans le secteur non commercial. Nous avons parlé donc des abus sur le nom de domaine, ainsi de suite. Mais ce qui est important pour moi, je dois donc essayer d'épargner les ressources de mon organisation pour aller chercher donc la protection. Là, la communauté peut être très créative et chercher de prendre des mesures pour ceux qui sont en train de faire, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour travailler dans ce domaine de DNS. Merci. Merci, Debra Leslie. J'imagine que mon commentaire, ce micro ne marche pas. Merci beaucoup. Je vais suggérer que la coopération, le développement d'une plateforme d'entente sur la façon dont fonctionne le système et sur la politique en place, donner une bonne compréhension sur toutes ces différentes politiques. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que la législation est la réponse en soi. Il faut donc avoir des politiques qui puissent être réactives, qui puissent montrer qu'il y a la responsabilité, donner aussi une voie d'ouverture. Concernant les différentes instructions qui ont été données, je pense qu'il faudrait nous assurer de protéger les gens qui s'enregistrent, mais nous devons donc avoir des activités qui sont dirigées, par exemple, pour combattre tout ce qu'on peut tirer comme avantage en créant des abus auprès des enregistrants. Il faut d'abord qu'on puisse répondre donc aux activités criminelles et arriver à pouvoir protéger les registrants. Il faut donc mettre en place une telle politique. Voilà donc ce que je propose. Merci, Leslie. Je suis en train, si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Vous avez le micro?
Yes.
Vous pouvez m'entendre? Je voulais... Oh là là! Je dois dire, il est vraiment important pour tous les secteurs privés de s'engager avec et surtout au niveau international dans le développement des problèmes. Il y a l'initiative publique et privée qui va et les activités de l'EPFC ensemble avec le bureau de commerce pour travailler avec le plan national qui est une organisation mondiale qui est d'une manière d'aborder le problème de spam et aussi l'industrie là où d'avoir plus de 20 pays. Donc ce sont les sortes d'initiatives que je pense peuvent titre résoudre le problème de maintien de loi de l'industrie et ce qui ont des impacts sur le partenariat, surtout ceux qui sont de niveau mondial, parce que c'est un problème mondial, vont aller vers la résolution du problème. Une autre chose clé que je pense qu'il est important, ce sont le objectif mondial, c'est le partage de l'information. Ce sont vraiment clés que j'avais souligné il y a à peu près 5 ou 6 de l'information critique qui ne sont pas venus. Ils sont venus de meilleurs académiques. Et donc, cette information sera vraiment importante quand il s'agit de stockage. Et c'est vraiment important et pour résoudre le problème. Le partage de l'information dans le contexte au sein de cette étude, c'est vraiment clé. Merci beaucoup, Chandra. Richard, vous avez le micro? Merci. Cette question, vous avez demandé, nous, à Microsoft, vous avez une longue histoire de travailler ensemble avec concernant le suivi criminel de manière forensique et nous allons essayer de faire la bonne chose là où c'est possible. Le point que je veux donner ici, c'est l'une des... C'est très difficile quelquefois de partager de l'information à cause de privé, de la vie, d'un secteur privé, peu importe. Nous avons à faire attention comment nous allons aborder, partager cette information. Nous, à un moment donné, nous devons garantir le secteur privé et aussi nous pour les protéger. Je pense, nous, à Microsoft, nous avons fait le bon équilibre entre nous avons toujours fait notre recherche de l'intérieur, des investigations, et pour faire face aux questions juridiques aux États-Unis, jusqu'à ce que nous sommes prêts à référer la question à la loi. Et c'est ça. C'est cette approche que je crois a été vraiment utile à Microsoft et nous respectons la question de la vie privée. Nous allons faire des investigations et protéger leurs droits et engager avec pour qu'on puisse aller et engager et faire tout ce qu'ils font mieux. Je pense que l'expérience a été vraiment, avait souligné l'efficacité dans la coopération, la coopération de milieu académique, surtout au niveau technique, quand le monde et de l'expertise des chercheurs, qui je fais partie de Microsoft, et ils vont toujours travailler en coopération pour aborder la menace de l'écosystème là où nous faisons notre recherche, nous faisons notre commerce, là où on fait des transactions commerciales, communiquer avec les membres de famille, tout ce qui était vraiment important pour le groupe, pour aider avec les opérations. La coopération est la clé. Et je pense la question de DNS et une, à mon avis, peut être abordée à cette perspective dans ce point. Et donc, j'encourage vivement la communauté de voir qu'est-ce qu'on doit faire et trouver des idées créatives pour aborder ce problème. Merci beaucoup. Vous avez une question d'un participant à distance. Cette question est c'est Brenna William et c'est la question de Paul Deby. Et cette question a été avec les domaines qui contiennent les définitions des désastres, ça peut changer vraiment le problème. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas vraiment compris votre question. Oui, oui, oui. Donc, honnêtement, cela va certainement résoudre une partie de ces problèmes. Mais la question, c'est la bio qui se passe maintenant, moi, je ne suis pas. Mon défi, c'est faire le suivi. C'est ça qui reste. Ça fait partie de mes priorités, prioriser le processus. Deuxièmement, maintenant, concernant le domaine qui vient sortir, c'est comme un travail. C'est vraiment m'aider pour résoudre tous ces problèmes, pour passer beaucoup de temps sur les ressources et les autres sur l'enregistreur, et puis travailler plus. Cela, ce n'est plus actif. Peut-être je ne vais pas demander d'avoir le nom de domaine transformé dans mon portefeuille parce que ça n'a pas fait de sens financier et tout cela. Et si ça revient encore, une fois encore, à plusieurs risques, et mes ressources ne sont pas suffisantes pour résoudre toutes les mauvaises activités. Le problème maintenant, peut-être j'aborde avec un seul incident et un mauvais acteur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si le mauvais acteur est plus intelligent et il vient toujours sur le fait qu'il serait capable de travailler plus que moi? Ça serait vraiment une grande solution pour un seul incident. Mais tout ce que nous avons vu, les gens qui sont vraiment mauvais vont faire de mauvaises choses. Ils sont vraiment forts. Tout ce que nous devons faire pour les étudiants à but non lucratif, c'est de devenir plus intelligents comme ils sont. Une suggestion pratique. Nous avons travaillé avec d'autres registrants de la communauté de l'ICANN. Nous avons introduit les questions de l'armaçon, les activités de l'armaçon, là où on pouvait mettre sur le nom, et cela avait été donc augmenté pour comprendre les activités criminelles qui peuvent réaliser les effets désirés. Donc, nous avons une dernière question, s'il vous plaît. Je m'appelle Beba Bech, je suis le président de l'ICANN, de la région de l'Amérique du Nord. La session qui a été, avant cette session, c'était sur le développement de certification de haute sécurité, un programme qui a un registre, un niveau de top level de bonne qui veut exiger. Moi, je vais vous poser cette question. Les peuples, les orateurs et les intervenants, est-ce que vous pouvez travailler quelque chose comme cela? Ou vous pensez peut-être que c'est une question que l'ICANN peut faire la co-régulation pour renforcer les activités de l'ICANN d'une manière efficace? Si vous pensez que l'idée de la certification à haute sécurité est une bonne idée, je vais vous inviter de s'impliquer parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup de cela. Il n'y a pas beaucoup de gens au final qui ont bénéficié. Ça montre vraiment prometteuse. J'avais suivi. Tout ce que je peux dire, dans ma propre perspective, de ma propre organisation, l'idée qu'il va y avoir une telle zone, ce sont de très bonnes nouvelles. Si ça ne veut pas dire, je vais passer moins de temps à aborder ces sortes de ramassonnages, les codes malveillants, et des choses comme ça. Je pense que mes préoccupations maintenant, c'est comment cela va être accepté universellement. Et avant donc de penser, pour faire une évaluation, c'est pas, ça ne fait pas partie de la situation. C'est comment maintenant on va le faire, comment on va être embrassé par la communauté de l'ICANN. Et j'espère que c'est une conversation que la plupart de vous vont continuer à en avoir. J'avais une réponse facile. Il a été nommé sur l'initiative. Maintenant, je vois vraiment, j'avais été informé par cette discussion. Et est-ce que j'avais vu quelque chose qui a un changement qui est seulement nécessaire? Mais cela dépend de ce qui va venir de cette discussion. J'aimerais demander s'il y a un orateur à distance qui va en répondre. Sandra, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je vais soutenir la plupart des questions qui sont données plus de sécurité. Richard, s'il vous plaît. Oui. Peut-être, il faut avoir des mesures qui vont augmenter la sécurité. C'est quelque chose que Microsoft souhaite la bienvenue. Malheureusement, je ne sais pas exactement tout ce qu'elle avait défini. Mais peut-être Je vais répondre, ça va répondre à la question si vraiment je vais chercher plus d'informations de cette mesure que j'avais expliquée. Mais comme l'intervenant préalable, peut-être je dois aborder cette question. Merci, je vous remercie. Une seule question, la dernière question, s'il vous plaît. Et puis, laisse-moi donner les perspectives pour le maintien de l'ordre. Très, très simple. Quand on est approché par l'agent de maintien de l'ordre, il faut toujours voir quelque chose pour éviter le crime. Oui, c'est toujours pour protéger le public, et c'est votre priorité. Et tout ce que nous avons à dire, il faut toujours garder que vous avez beaucoup de l'expertise technique et les compétences comme l'officier qui va venir à vous avec n'importe quelle sorte de demande, ça soit être sur le maintien de loi ou quelqu'un d'autre. Vous allez dire non. Cela va expliquer pourquoi vous allez dire non, parce qu'il peut y avoir un autre travail pour faire. Et puis, mon point final, vraiment, sera, c'est quelque chose que vous pouvez vous rappeler peut-être. Juste essayer de trouver des raisons de dire oui, au lieu de chercher des raisons de dire non. Cela ce serait vraiment un bon point. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander aux orateurs s'il y a quelques remarques de clôture. Debra. J'aimerais remercier tout le monde ici qui ont resté ici. Et merci beaucoup des grandes questions, de bonnes questions. J'espère que cette consultation va continuer. J'encourage tout le monde qui va parler plus sur ces questions. Nous pouvons maintenant, nous planifions de dire beaucoup de choses pour donner plus d'exemples. S'il y a plus d'exemples, les gens ont besoin de discuter. Je vous remercie. Je dis oui pour CFA Internet, pour l'Internet. Avant d'y aller à notre personnel, c'est pourquoi j'avais dit que les déclarations qui étaient faites ce matin de manière négative n'étaient pas vraiment utiles cette semaine. La plupart des gens de cette communauté sont vraiment engagés dans la sécurité stable, l'internet qui est stable et absolument. Chandra, vous avez la parole. Oui, j'aimerais remercier Margie d'avoir coordonné le panel. Je suis vraiment content que vous avez fait cela. Merci beaucoup d'avoir discuté la question et je cherche avec attention de se rencontrer pour trouver des solutions de coopération. Richard, vous avez le microphone. La même chose, je vous remercie beaucoup d'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui au nom de Microsoft. Nous sommes vraiment excités sur le fait que vous avez considéré la question de DNCS de manière étroite et j'aimerais vraiment dire nous aussi. Nous allons, une très bonne semaine, nous allons toujours prendre une approche agressive et les actions uniques à cet aspect avec des partenariats de l'industrie pour continuer notre travail qui avait commencé à Welbeck. Et nous allons voir cela continuer depuis l'octobre pour l'avenir prévisible. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les présentateurs et surtout Maggie d'avoir organisé cette session. Et pour Ekena d'avoir organisé cette session et de plus d'avoir donné l'opportunité pour la capacité et la sensibilisation par toute cette question pour la région à travers l'atelier, surtout cette session, et d'inviter tout le monde pour la même session au cours de la réunion à Bruxelles aux gens. Je vous remercie beaucoup de votre participation.